Bonjour, nous sommes là devant un texte qui nous montre Jésus qui priait. Vous l'avez lu avec moi, un jour Jésus priait en un certain lieu. Il n'y a aucune précision de l'endroit ni de l'époque, mais ce n'est pas là bien sûr l'important. Vous savez qu'il existe différentes manières de prier. Il y a des gens qui prient par absolue nécessité, ou je dirais par absolue urgence, quand ils se trouvent dans la difficulté. Et ce n'est que dans la difficulté qu'ils prient. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont pris l'habitude de prier. Et puis, il y a ceux qui, par exemple, répètent cette prière que Jésus a donnée comme un exemple, plus qu'un modèle, sans doute. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais je crois que le plus important, au début de ce texte, c'est de considérer que c'est en voyant Jésus prier que les disciples, ou l'un d'entre eux, peut-être qu'ils n'osaient pas trop s'approcher de Jésus parce qu'ils attendaient qu'il les fît prier, et ils ont délégué l'un d'entre eux, peut-être le plus courageux, mais on ne sait pas qui c'est, donc on n'ira pas plus loin dans cela. Et l'un d'entre eux est allé vers Jésus et lui a dit, de la part bien sûr de tout le monde, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors il dit, comme Jean l'a enseigné à ses disciples, mais nous ne savons pas comment Jean a enseigné à ses disciples comment prier, puisque l'Évangile n'en parle pas. Mais je crois que plus que cela encore, c'est « Seigneur, apprends-nous à prier comme toi. » Parce que c'est en voyant Jésus qu'ils ont eu envie de prier. C'est en voyant Jésus qu'ils ont eu envie de le suivre. C'est en voyant Jésus à l'œuvre qu'ils ont eu envie de vivre une vie différente de celle qu'ils vivaient jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ils vivaient une vie dans une certaine religion. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont compris que Jésus avait quelque chose de plus. Jusqu'à présent, ils avaient déjà fait une première démarche de suivre Jean-Baptiste, qui déjà apportait quelque chose de plus que la religion officielle. Mais en voyant Jésus, certains d'entre eux ont même été invités par Jean à suivre Jésus, parce que Jean-Baptiste était très conscient du fait qu'il ne venait que pour préparer le terrain à Jésus. Et donc, ils se sont retrouvés à suivre Jésus et à découvrir en Jésus quelqu'un qui était bien plus qu'un chef religieux, bien plus qu'un simple homme. Jésus était, comme ils l'ont compris rapidement, l'envoyé de Dieu et même plus le Fils de Dieu. Alors, Jésus leur a enseigné à prier par son exemple. Jésus priait certainement d'une manière extraordinaire. Jésus priait beaucoup, comme nous allons le voir dans un instant, et je crois que ce serait un euphémisme de dire « Jésus priait très bien ». Je dis ça parce que parfois, il y a des gens qui sont intimidés dans certaines de nos églises évangéliques et qui n'osent pas prier à haute voix, parce qu'ils entendent d'autres personnes, d'autres croyants, qui prient et qui font de magnifiques prières. Je me souviens quand j'étais enfant, disons quand j'étais adolescent, dans l'église dans laquelle j'ai grandi, quelque part en province, il y avait un homme qui priait de temps en temps, pendant le culte, puisque nous avions un moment qui était réservé à ceux qui voulaient prier à haute voix. Et quand il priait, on aurait dit du... On aurait dit du Victor Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? C'était poétique, c'était magnifique. Il employait des expressions que personne n'employait quand il priait. Alors, il était impressionnant, cet homme. Mais il priait que de temps en temps, peut-être heureusement, parce qu'après, personne n'aurait osé prier. Mais bien sûr, ce n'est pas ce que Jésus faisait. Il ne nous est pas montré que Jésus priait de cette manière-là. Quand il parlait, Jésus n'avait pas un vocabulaire poétique. Le but, ce n'est pas, bien sûr, de faire les plus belles prières possibles au niveau de la langue. C'est surtout, nous le voyons dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement de Jésus, de prier avec sincérité et avec ferveur. Alors, Jésus va donner à ses disciples un exemple. Je ne dis pas un modèle, parce que si on parle de modèle, alors on va dire « je vais essayer d'imiter cette prière ». Mais le vrai but ne semble pas être celle-ci. Quand nous lisons la suite de l'histoire, les actes des apôtres, nous ne voyons jamais les apôtres, les disciples de Jésus, prier cette prière. Peut-être la priait-il quelquefois. Mais je crois qu'au-delà de l'exemple, au-delà du modèle, il faut surtout voir donc un exemple de prière. Que dit Jésus dans cette prière? En fait, Jésus dit, il y a d'abord les paroles. Les paroles, c'est « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Je crois que cette prière montre d'abord quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire une véritable passion. Passion pourquoi ? La première phrase dit « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » « Que ton nom soit sanctifié », c'est une passion pour la sainteté de Dieu. Jésus dit « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit respecté, que ton nom soit reconnu comme le nom de Dieu. » Et le nom de Dieu, « Que ton nom soit sanctifié », signifie que ton nom soit mis à part. Le nom de Dieu représente sa personne, sa véritable nature. Le nom de Dieu n'est pas un nom quelconque. Même si dans le Nouveau Testament, Dieu est simplement appelé Dieu. Et Dieu, c'est un nom courant. Même dans l'Antiquité grecque, on employait ce mot pour désigner les dieux de la mythologie. Et dans le Nouveau Testament, tout le monde emploie ce mot simple, Dieu. Ce qui fait la différence, c'est le contenu de ce nom. C'est la profondeur de ce nom. C'est que derrière ce nom, il y a toute la puissance de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, cela veut dire que ton nom soit donc mis à part parce qu'il est unique. Ensuite, cette prière révèle une passion pour la volonté de Dieu, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je crois que nous devons avoir cette même passion pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que s'il est dit ici « Que ton règne vienne » et l'évangéliste Matthieu ajoute « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », semble que nous ayons avec Luc une version abrégée de la prière de Jésus. Les deux, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », sont l'expression du désir de l'être humain qui fait cette prière, que Dieu fasse ce qu'il veut. Dans sa vie, au sein de l'Église, et puis plus tard, autant que faire se peut, nous savons que ce sera le cas bien un séjour, que la volonté de Dieu soit respectée partout, que son règne vienne partout. La Bible dit qu'un jour, Dieu règnera sur toute la terre. Donc cette parole exprime une passion pour l'accomplissement de cette volonté de Dieu et cet établissement du règne de Dieu. Ensuite, il y a une passion pour le fait que Dieu pourvoie à nos besoins les plus légitimes. Il y a des gens qui font toutes sortes de prières. Certains font des prières pour satisfaire leurs envies personnelles, qui ne sont pas des besoins légitimes. La Bible montre que Dieu répond toujours aux prières qui correspondent à des besoins légitimes. Et le premier besoin légitime, c'est bien sûr le pain quotidien, la nourriture. Il y a des besoins essentiels dans la vie. Il n'est pas absolument nécessaire. Je dis cela alors que le salon de l'automobile n'est pas terminé, mais il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la plus belle voiture du monde. Encore faut-il avoir les moyens pour l'acquérir. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller en vacances dans les îles les plus réputées de la planète. Si on peut y aller, on y va, mais ce n'est pas absolument fondamental. Il y a des besoins fondamentaux qui sont les besoins du corps, mais aussi les besoins de l'esprit. Et les besoins légitimes, Dieu est toujours prêt à y pourvoir. C'est le sens, je crois, de cette prière. Et puis, le dernier besoin la dernière passion qu'exprime cette prière, c'est, je dirais, même si cela peut paraître paradoxal, une véritable passion pour le pardon. C'est vrai que, généralement, l'idée même de pardonner sous-entend l'idée qu'il y a eu des torts, et l'idée de pardonner à l'autre, ça laisse entendre que l'autre nous a fait du tort et que nous devons maintenant faire comme si ne s'était rien passé, ou presque, ça dépend des cas. Mais en tout état de cause, il nous faut pardonner l'autre Et la prière de Jésus, ainsi que son enseignement dans l'évangile de Matthieu, nous enseigne que le pardon de Dieu à notre égard est lié à notre pardon de ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, dans un texte de Matthieu, je n'ai pas la référence avec moi, mais dans un texte de l'évangile de Matthieu, il est dit que si nous ne pardonnons pas, c'est Jésus qui le dit, si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses envers nous, le tort qu'ils nous ont fait, Dieu lui-même ne nous pardonnera pas nos péchés ou nos offenses envers lui, les torts que nous lui avons faits. Voyons donc que nous devons avoir une véritable passion pour le pardon. Si Dieu a été passionné au point de nous pardonner nos péchés, au prix de son Fils Jésus, nous devons aussi apprendre à pardonner aux autres, parce que le pardon est au cœur de l'Évangile. Le pardon est lié à l'amour, et le pardon est lié au cœur de l'Évangile. Jésus l'a montré lorsqu'il a dit à l'un de ses disciples, ou à une personne qui s'approchait de lui et lui disait « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ? Devrais-je aller jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus a répondu « Non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. » Ce qui fait, en mathématiques je crois, 490 fois. Imaginez simplement un instant que vous soyez amené à devoir pardonner quelqu'un 490 fois. L'être humain, même bien avant cela, aura dit « Bon, maintenant c'est fini, je lui ai pardonné 2, 3, peut-être 4 fois. » Généralement, l'être humain n'est pas disposé à aller plus loin si jamais il arrive jusque-là. Parfois, c'est même quand il s'agit de pardonner pour la première fois qu'on ne pardonne pas. Et Jésus dit 490 fois. Que veut-il dire par là ? Bien sûr, il serait étonnant que quelqu'un vous fasse du tort ou nous fasse du tort 490 fois. Je n'ai pas fait le calcul sur une vie de 70-80 ans, combien ça ferait par an. Je n'ai pas le temps de faire le calcul, mais ça doit faire dans les 60 fois par an. Donc ça fait quoi ? Ça fait 5 fois par mois, ça fait pratiquement plus d'une fois par semaine. C'est impossible, mais que veut dire Jésus ? Jésus veut simplement dire que si l'on pardonne 490 fois, c'est parce que le pardon est devenu une partie intégrante de notre nature. Il est certain que Dieu a dû pardonner beaucoup plus que 490 fois les êtres humains. Déjà parce qu'il y a eu des milliards d'êtres humains qui ont existé jusqu'à maintenant. Et chacun a besoin de pardon. Mais ce que Jésus veut dire, c'est le pardon doit devenir une partie intégrante et naturelle de votre vie. Jésus lui-même a donné l'exemple. Jésus a donné l'exemple parce que il a lui-même prié beaucoup. Je disais tout à l'heure, Jésus priait certainement très bien, je dirais même parfaitement bien. On en voit un exemple dans le fait que un jour devant le tombeau de Lazare, qui était mort depuis 4 jours, Jésus a fait cette prière extraordinaire qui reste un idéal quasi inaccessible pour nous. Je ne sais pas s'il est accessible pour un être humain, même un chrétien. Jésus devant le tombeau de Lazare, alors que Lazare était mort, il n'était pas encore ressuscité, a dit en priant Dieu, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Avant même d'avoir prié pour la résurrection de Lazare, Jésus a dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il était sûr que Lazare allait ressusciter. Et il rajoute aussitôt, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Jésus était habité par une extraordinaire conviction. Jésus marchait avec Dieu, son Père, à la perfection. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus priait souvent, et en particulier, dans l'Évangile de Luc, nous voyons Jésus prier plus souvent que dans les autres Évangiles. Visiblement, cela avait marqué l'évangéliste Luc, et nous voyons par exemple Jésus qui prie lorsqu'il est baptisé. Lorsqu'il est baptisé d'eau par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il est dit « Jésus priait et le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. » Plus tard, nous lisons que Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Un peu plus loin, nous lisons, même scène pratiquement, nous lisons dans chapitre 5, verset 16, de nouveau, « Jésus se retirait dans les déserts et priait ». Cela semble être une habitude chez lui. Au chapitre 6, verset 12 de Luc, nous lisons que « Une nuit, Jésus a passé toute sa nuit à prier avec Dieu son Père. » Et à l'aube, Jésus a choisi ses 12 disciples, ses 12 apôtres. Il est donc important, nous le voyons ici, de prier quand nous avons de grandes décisions à prendre. Dans Luc chapitre 9, nous voyons Jésus monter sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean et prier. Et pendant qu'il prie, son visage est transformé, transfiguré, comme dit l'Évangile, et il apparaît conversant avec Moïse et Élie. Et donc, il y a notre texte. Dans notre texte, nous avons, dans cette prière modèle, ou cette prière exemplaire que Jésus fait, nous avons les paroles de la prière. Mais il y a aussi maintenant, par l'histoire que Jésus raconte après, l'esprit de la prière. Quel est l'esprit de la prière que Jésus veut inculquer à ses disciples? Il leur dit, lequel d'entre vous a un ami, et vous avez lu l'histoire, un ami qui est dérangé par un de ses amis, en plein milieu de la nuit, un ami qui arrive sans prévenir, il est en voyage, il veut faire une escale, peut-être que les hôtels étaient tous pris, et il se rappelle tout d'un coup qu'il a un ami dans le village, alors il va le voir, c'est le milieu de la nuit, peut-être ça voulait dire minuit, ou même plus tard, 2-3 heures du matin, il frappe à sa porte, il le réveille, et l'ami lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, j'arrive, je suis en voyage, je n'ai pas trouvé de place à l'hôtel, enfin je modernise un peu l'histoire, et je voulais savoir si je pouvais dormir chez toi cette nuit. Alors l'ami dit oui, apparemment il dit oui, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il n'a rien à manger. Parce que l'hospitalité à l'époque en Israël était telle que si un ami arrivait chez vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, la première chose qu'on lui disait c'est « As-tu mangé ?» Alors évidemment, on n'est pas habitué à recevoir des amis à 3 heures du matin, surtout quand ils n'ont pas prévenu avant. C'est quand même assez rare que cela nous arrive. Mais l'hospitalité voulait qu'on lui donne à manger quelle que soit l'heure. Le problème, c'est, et c'est ça le véritable problème, c'est que l'ami qui reçoit cette visite n'a rien à manger. Jésus continue l'histoire et dit, alors cet ami qui n'a rien à manger va aller réveiller un autre ami. Vous voyez, c'est une histoire d'amis qui se dérangent les uns les autres. Et donc le troisième ami, qui lui non plus n'était pas prévenu, bien sûr, va être réveillé par le deuxième, qui était en fait le premier à être dérangé, et il frappe à la porte et lui dit « Prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et Jésus raconte cette histoire dans un but précis. Il veut inculquer à ses disciples une leçon très importante au niveau de la prière. Jésus dit, ils sont amis tous les deux. Mais si l'autre insiste, et celui qui est dans la maison, le dernier à être dérangé, dit, je suis couché, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux pas me lever. Il faut savoir qu'à l'époque, souvent, les gens d'un niveau plus ou moins humble, les gens, ce n'est pas une histoire d'homme riche qui nous est racontée ici, et c'est une famille très modeste, et souvent les familles très modestes vivaient dans une simple pièce. Les maisons, c'était juste une simple pièce. J'ai connu moi-même des agriculteurs qui, quand j'étais enfant, habitaient comme cela dans une maison faite d'une seule pièce, environ 30-40 mètres carrés. Ils avaient dans cette pièce le lit, la cuisine, parlons pas de salle à manger, une grosse armoire, et c'est là-dedans qu'ils vivaient. Pas de salle de bain, bien évidemment. On allait se laver avec une bassine, on prenait de l'eau à la pompe, et il n'y avait même pas l'eau qui arrivait directement dans la maison. Et ça, c'était dans les années 60. Alors vous imaginez à l'époque de Jésus. Donc l'homme vit dans sa maison, dans sa grande pièce, avec ses enfants qui sont couchés. Souvent même dans les familles modestes, on faisait dormir les animaux l'hiver dans la même pièce. Pas au même endroit, bien sûr, mais dans un autre coin de la pièce. Donc se lever, ça va réveiller tout le monde parce qu'il risque dans la nuit... vous savez, il n'y avait pas d'électricité non plus, on ne allumait pas la lampe de chevet pour y voir un peu plus clair. On marchait dans le noir. Et il dit, je ne peux pas me lever, mes enfants sont au lit avec moi, je vais réveiller tout le monde. Je risque de marcher sur quelqu'un en me levant, parce qu'il dormait sur le sol, sur une espèce de matelas. Mais Jésus dit, et la porte est fermée, barricadée, comme à l'époque, par peur des voleurs. Le problème, Jésus dit, c'est que celui qui est couché ne va pas se lever, parce que finalement, il va se lever. Il va se lever non pas parce que c'est son ami qui est en difficulté. Et les règles de l'hospitalité étaient des règles quasiment sacrées. Il fallait que l'homme puisse donner à manger à l'ami qui arrivait. Il ne va pas se lever parce que c'est son ami, mais parce qu'il insiste. On peut imaginer l'homme qui continuait à tambouriner. « J'ai besoin de 3 pains, j'ai besoin de pain, ne me laisse pas tomber, j'ai besoin. » Il est convaincu, et visiblement l'ami qui est couché a du pain. Mais il n'a pas envie de se lever, parce qu'il ne veut pas déranger sa famille. Et à la fin, Jésus dit, il se lèvera quand même à la fin. Pourquoi ? Parce que l'autre insiste. Et le mot que Jésus emploie, qui est traduit dans la Bible ici par importunité, je crois que c'est le même mot dans cette version-là. L'importunité, c'est quoi ? C'est faire fi de toutes les conventions. C'est faire fi de tous les scrupules. C'est être littéralement, comme on dit, sans gêne, sans scrupule. L'homme qui frappe n'a qu'une idée en tête. J'ai besoin de pain, je sais qu'il en a, il faut qu'il me les donne. Quand on est ami, même quand on est ami aujourd'hui, on hésiterait un petit peu à faire cela. Et pourtant Jésus dit, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera, non pas, Jésus ne dit pas 3 pains, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Évidemment, connaissant l'hospitalité de ces pays-là, cela voulait dire, une fois qu'il est debout, il ne va pas lui donner seulement 3 pains. Il va se dire, s'il n'a rien à manger, je vais lui donner aussi des légumes, je vais lui donner aussi des fruits, je vais lui donner aussi autre chose, pour que l'ami qui est là soit rassasié complètement. Jésus dit que lorsqu'on appartient à Dieu, Dieu pourvoit à nos besoins, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Philippiens, Dieu pourvoit à nos besoins, non pas dans la limite de ce que nous lui demandons, mais en nous donnant bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et il dit aussi dans un autre texte aux Philippiens que Dieu donne, Dieu en fait pourvoit, Dieu comble tous nos besoins, selon sa richesse et avec gloire. Comment peut-on imaginer quelque chose de plus ? C'est pourquoi Jésus dit après avoir parlé de l'esprit de la prière, Jésus va insister en disant, c'est pourquoi je vous dis. Et là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Quand Jésus dit cela, il ne laisse pas entendre qu'il y aura des cas exceptionnels où cela ne se produira pas. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, verset 9, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans la bouche de Jésus, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. Il n'y a pas l'ombre d'une interrogation. Est-ce que Dieu répondra vraiment toujours ? Est-ce que si on demande, parce qu'il s'agit de Dieu, est-ce que si je demande, dans tous les cas de figure, Dieu me donnera ? Est-ce que si je cherche, je trouverai toujours ? Est-ce que si je frappe, Dieu m'ouvrira toujours ? Mais Jésus continue. Car quiconque demande, reçoit. Quiconque. N'importe quelle personne qui s'approche de Dieu sincèrement, en s'efforçant de faire sa volonté, il est dit, cette personne-là, quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Cela me rappelle cette parole du prophète Jérémie qui disait, qui faisait dire à Dieu, enfin Dieu disait au prophète Jérémie, et par l'intermédiaire de Jérémie à son peuple d'Israël, Dieu disait, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » L'idée est toujours la même. C'est que si nous cherchons Dieu, si nous demandons à Dieu, si nous prions Dieu, Dieu répondra. Et il termine son enseignement Et je termine en même temps cette méditation. Jésus termine en disant « Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? S'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Je note au passage que les choses dont Jésus parle, le pain, le poisson, l'œuf, sont des éléments de base de la nourriture, aussi bien à l'époque, mais pourquoi pas aussi aujourd'hui. Jésus parle toujours de besoins légitimes, de prières légitimes. Bien sûr, nous ne pouvons pas prier pour n'importe quoi, comme je le disais tout à l'heure. Nous ne devons pas prier pour vivre dans le luxe. Nous pouvons très bien vivre sans luxe. Mais Jésus a à cœur de pourvoir à tous nos besoins. Et cet enseignement, rappelons-le, c'est un enseignement que Jésus délivre à la suite de la question qu'ont posé les disciples. « Seigneur, apprends-nous à prier, sous-entendu comme toi. » Alors Jésus termine son enseignement sur la prière par un enseignement de base essentiel. « Si donc vous qui êtes mauvais, c'est-à-dire vous qui êtes imparfaits, vous qui n'êtes pas des gens exemplaires sur toutes les choses, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, parce que lorsque vos enfants vous demandent à manger, lorsqu'ils vous demandent la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, légitimes, vous leur donnez ce qu'il faut. Si donc vous qui n'êtes pas parfait, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Jésus termine en disant, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? L'Esprit Saint, c'est la requête parfaite. Pourquoi l'Esprit Saint ? Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui dirige dans la prière. Il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui dit que lorsque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit Saint vient nous aider et nous permet de prier comme Dieu le veut. En d'autres termes, quand nous ne savons plus pourquoi prier, quand nous sommes peut-être même parfois dans une impasse, nous ne savons plus quoi demander à Dieu, l'Esprit Saint qui habite en nous, parce que la Bible dit que lorsque nous nous donnons à Dieu, son Esprit Saint vient habiter en nous pour nous conduire dans la vie nouvelle qu'il nous a donnée, pour nous rendre capables de résister aux tentations, pour nous rendre capables de conduire notre vie comme Dieu le veut, pour nous rendre capables d'aider les autres, pour nous rendre capables de parler en toutes circonstances de la part de Dieu. Le Saint-Esprit qui vient en nous sera alors capable de nous inspirer. C'est pourquoi Jésus termine son enseignement sur la prière en disant « À combien plus forte raison Dieu vous donnera-t-il le Saint-Esprit ?» Car c'est le Saint-Esprit qui peut seul nous aider à prier comme Jésus priait. C'est pourquoi ses disciples lui ont posé la question « Seigneur, apprends-nous à prier » ou plutôt lui ont fait cette demande. Et c'est pourquoi, en réponse à cette question, Jésus a répondu « Le Saint-Esprit vous permettra de prier comme moi je prie. » Que son nom soit béni. Amen.